La commune de Liourdres, entre Lot et Corrèze, compte un des ateliers de facture d'orgue parmi les plus réputés. Installé là par Bertrand Catiot, il est depuis 2019 animé par Olivier Chevron, qui en est le nouveau patron. Alors sur ACX, je vous propose de découvrir ce métier passion, facture d'orgue, au travers du regard d'Olivier Chevron. Olivier Chevron, quand un petit garçon a envie de devenir facteur d'orgue, quelles sont les raisons? En fait, c'est une transmission, pratiquement cette passion pour l'orgue, c'est une transmission de votre papa. Comment ça s'est passé?
Alors, les raisons, elles sont diverses selon les individus. Me concernant, c'était une relation vraiment intime entre moi et mon papa. Donc, c'était une transmission de sa passion, qui était la musique d'orgue, le travail du bois. Il m'a transmis ça.
Mais lui n'était pas facteur d'orgue. Hein.
Non, il était technicien dans une usine qui fabriquait des pièces détachées pour les voitures. Donc il était contremaître. Par contre, il était passionné du travail du bois et il jouait de l'orgue. Alors en amateur, en ce sens que ce n'était pas sa profession, mais ce qu'on appelle un bon amateur.
Alors il était à Laval, à Notre-Dame des Cordeliers. Qu'est-ce qu'il y avait comme orgue là-bas?
À Notre-Dame des Cordeliers, il y a toujours d'ailleurs le même instrument qui n'a pas bougé depuis 1937, date de sa reconstruction, par Gloton. Donc c'était un petit orgue de 16 jeux, un orgue originaire d'un certain Sergent, alors un facteur d'orgue totalement inconnu. J'ai regardé dans tous mes listings.
Il a fait que celui-là.
Il a fait un orgue dans sa vie, c'est celui-là, qui était un tout petit orgue d'un seul clavier à l'époque, donc fin 19e, peut-être une dizaine de jeux. Et Gloton, en 1937, l'a agrandi, 16 jeux de clavier.
Alors, on n'y reviendra plus après, mais on va parler technique. Quand vous dites un clavier, 16 jeux, bon, ça parle peut-être pas à tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Alors, un clavier, un orgue peut avoir jusqu'à 8 ou 9 claviers. Il y en a un aux États-Unis qui est absolument géant et qui, je crois, a 8 claviers, dont un clavier de piano. Mais nous, en Europe, quand on a 4 ou 5 claviers, c'est déjà le maximum. La plupart des orgues ont combien de claviers?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi il y a plusieurs claviers. Contrairement à un piano, souvent on me dit c'est un piano, mais non. Alors, l'étendue est plus courte.
L'étendue, c'est le nombre de notes
sur chaque... C'est le nombre de notes, donc il y a moins de notes dans le grave, moins de notes dans l'aigu. En fait, chaque clavier a une fonction qui lui est propre. Donc la plupart du temps, la majorité des instruments ont deux claviers. Donc un clavier qui donne accès au jeu grave et puissant, et un clavier secondaire. Après, on peut en mettre un troisième, un clavier récitatif par exemple, pour chanter, faire chanter une mélodie accompagnée par l'un ou l'autre des autres claviers. Et chemin faisant, il peut y en avoir, au maximum en France, c'est 5, il y en a très peu. Et à l'étranger, effectivement, on peut arriver à 6, 7, 8, mais ça c'est
un peu délirant là.
Oui, on trouve ça aux États-Unis par exemple.
Et non pas dans une église d'ailleurs, mais dans un centre commercial, le plus grand orgue du monde.
Oui, entre autres, effectivement. Ouais.
Alors qu'est-ce que c'est un jeu?
Alors qu'est-ce que c'est un jeu? C'est une rangée de tuyaux. Je rappelle, il y a une grosse différence entre l'orgue et le flûte à bec, par exemple, parce que l'orgue est constitué de flûte, finalement. C'est qu'une flûte à bec peut donner, grâce à ses trous, plusieurs notes pour un seul instrument. À l'orgue, c'est pas possible. Il y a une note par tuyau. Donc, en fait.
Donc, s'il y a 50 notes, il y a 50 tuyaux.
Exactement. Exactement. Un tuyau par note.
C'est pour ça que c'est si cher.
C'est pour ça que c'est si volumineux.
Et volumineux. C'est des vraies maisons. Hein. Certaines orgues, on peut rentrer dedans et s'y prendre. Moi, maintenant, moins, parce que j'ai un peu grossi. Mais voilà.
Vous savez, pour un facteur d'orgue, même s'il y a beaucoup de place, il faut parfois se faufiler. Renault, à l'époque, était facteur d'orgue.
Alors, Renault, c'était un facteur d'orgue de la région de Nantes, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Il disait, je me souviens, il disait, pour être facteur d'orgue, il faut être un homme serpent. Alors, quand on est apprenti, oui, on peut être un homme serpent. On peut se faufiler, mais après, bon, effectivement, moi aussi, je prends un petit peu de ventre.
Donc, encore oui. De la place.
Mais c'est vrai que dans certains instruments, je pense les grandes tribunes à Paris, par exemple à Notre-Dame de Paris, Saint-Eustache ou Saint-Sulpice, ce sont des vrais immeubles. Il y a parfois 3-4 étages avec des escaliers en colimaçon, des allées, etc. Tout ça pour donner accès à tous les organes.
Alors, on va revenir au petit garçon qui a 13-14 ans. Bon, ce petit garçon-là, il n'est pas forcément le premier de la classe et il en est très content. C'est ça qui est bizarre. C'est que le fait de ne pas être premier de la classe, vous l'avez un peu travaillé pour vous permettre de partir, faire de l'apprentissage.
Bah oui, disons qu'à l'époque, j'étais un petit peu, lunatique. J'avais une passion qui était en train de se développer, qui était la musique. puis la facture instrumentale, et c'est vrai qu'à l'école, j'étais pas ce qu'on pourrait appeler un premier de la classe, pour rester poli.
Alors quand on veut être tourneur-fraiseur, c'est assez facile, hein, y a des lycées pour apprendre ça, et puis il y a du boulot, mais quand on veut être facteur d'orgue, c'est quand même spécial, comment on fait pour trouver un apprentissage, comment on fait pour trouver un premier patron, et puis pour se jeter dans le bain, parce qu'il faut partir jeune?
Ah, c'est le bouche à oreille. Hein. Alors, on a une école, heureusement. Moi, j'ai eu l'immense chance de bénéficier de la première année de la création de l'école.
Elle est où?
Elle est dans la région sud de Strasbourg, à Échaud exactement, soit à 10 km au sud de Strasbourg. Et donc, l'école s'est créée la première année où moi, je suis rentré en apprentissage.
C'est-à-dire, on peut le dire, il y a combien d'années?
Oh là, c'était dans les années 85, par là.
Alors, dans une école de facture d'orgue, on n'apprend pas un métier, on apprend des métiers, parce que la facture d'orgue, c'est pas un métier en soi. Enfin, y a plein de spécialités. Est-ce qu'on peut déjà donner les grandes spécialités d'un atelier de facture d'orgue? Parce qu'on va parler plutôt d'atelier plutôt que de facteur d'orgue.
Oui, on peut parler comme ça. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est les matériaux qu'on travaille. Le matériau essentiel, c'est le bois. Vient en second l'étain et le plomb pour faire les tuyaux. Après, il y a plein d'autres matériaux, de la peau, du parchemin.
Du parchemin, encore aujourd'hui?
Ah oui, encore aujourd'hui, lorsqu'on construit ou restaure des instruments à l'ancienne, bien sûr, on utilise le parchemin. C'est un super matériau, le parchemin, parce que c'est extrêmement résistant.
Alors, c'est pour la petite histoire, j'ai eu la chance de visiter votre atelier à plusieurs reprises et j'ai vu des sommiers. Alors, le sommier, une pièce en bois, une grande caisse en bois sur laquelle, en gros, on met les tuyaux, et des sommiers qui étaient du 19e siècle et qui étaient protégés par des parchemins, et ces parchemins avec des enluminures. C'est-à-dire qu'on avait récupéré des vieux trucs pour faire l'étanchéité. Hein.
Ben, il faut comprendre qu'à l'époque, les facteurs d'orgue, comment dirais-je, les matériaux coûtaient très cher. Contrairement à aujourd'hui où ça coûte cher, certes, mais c'est la main-d'œuvre qui coûte cher. À l'époque, la main-d'œuvre coûtait pas grand-chose, mais par contre, les matériaux coûtaient très cher. Donc, ils avaient cet état d'esprit d'économie. Et combien de fois, moi, j'ai vu, vous parliez des parchemins. Donc, ils utilisaient effectivement les enluminures, ce qu'ils avaient sous la main, ce qui partait à la poubelle, qui n'était plus utilisé. Donc, on trouve des écrits avec des nœuds, parfois des partitions. Mais même le bois, on trouve des matériaux de récupération avec des pièces percées de trous, dont on ne sait pas ce que c'est, mais c'était une traverse, voilà, qui était utilisée comme ça.
Et qu'on a repris. Alors, on va revenir au petit garçon là qui trouve un atelier. Comment on fait pour trouver un atelier? Parce qu'on ne l'a pas dit, ça. En fait, ça a été pas vraiment un parcours du combattant, mais ça n'a pas été simple de trouver un patron qui vous dise « Ok, je te prends ».
Alors, c'est pas facile. C'était pas facile à l'époque. Ça l'est encore plus. C'est encore plus difficile aujourd'hui, mais même à l'époque, en fait, c'est le bouche à oreille. Vous savez, c'est un microcosme où les facteurs d'orgue rencontrent les organistes. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On contacte les organistes de nos connaissances et puis on leur demande, tiens, est-ce que tu ne connaîtrais pas un facteur d'orgue? Et en général, ils connaissent toujours quelqu'un. Et donc, j'ai essayé deux entreprises. La première était un refus et la deuxième a accepté de me prendre en apprentissage.
Alors, peut-être donner son nom, parce que sans lui, vous ne seriez pas là. Peut-être, hein, c'est Laurent Plet. Ça existe toujours?
L'entreprise de Laurent Plet, donc c'est Laurent Plet qui a créé son entreprise. Elle existe toujours. Lui, il est à la retraite. Donc, c'est son fils Pierre-Adrien qui a repris du flambeau. Donc l'entreprise Play existe toujours.
À Troyes.
À Troyes, la ville de Troyes dans l'Aube.
Voilà. Et vous êtes d'où? Alors de Laval, c'est ça?
Moi je suis de Laval.
D'accord, ça fait une petite trotte, hein. Vous avez quitté papa, maman, il a fallu à 14 ans prendre son indépendance.
Oui, vous savez, on fait un métier de nomade un petit peu, hein, donc on aime bien aussi l'indépendance, on voit du pays. Souvent on me demande, est-ce que vous êtes compagnon au sens du Tour de France? Oui. Je leur dis non, dans notre profession ça n'existe pas.
Et mon il n'y a pas de compagnonnage chez les facteurs d'orgue, c'est incroyable.
Ça n'existe pas.
C'est incroyable parce que s'il y a une profession nomade, c'est bien la vôtre.
Tout à fait. Et mon explication, elle est très simple, c'est qu'un menuisier, il peut très bien travailler localement, un facteur d'orgue ne peut pas. Donc de toute façon, il est compagnon par force des choses. Ouais. Dans ce sens du voyage, en fait.
Bah parce que vous passez votre temps, enfin 50% de votre temps minimum sur la route et en déplacement.
Oui, c'est ça.
Et encore le patron un peu plus.
Le patron un peu plus.
Parce qu'il faut négocier les contrats, il faut aller chercher les sous.
Oui, mais bon, ça fait partie du travail. Je dirais que c'est intéressant aussi de voyager, de voir des gens, des paysages.
Alors, on va revenir sur des choses un petit peu techniques, mais on va essayer d'être pédagogique. Par exemple, si on a des voitures, on peut aimer avoir des voitures de 1930, des voitures de 1980, des voitures modernes. Voilà. Pour les orgues, c'est pareil. Il y a les orgues Renaissance, il y a les orgues baroques français, allemands, italiens, les Pays-Bas aussi ont de belles machines. Et puis, il y a des orgues plus modernes, romantiques, symphoniques. Bref, ça fait beaucoup d'orgue et de style et de musiciens. Alors, votre papa, qui était organiste amateur, mais de grand niveau, lui était très orgue romantique, orgue symphonique, c'était plutôt son truc, donc une musique du 19e siècle.
Son professeur, qui était le chanoine Fauchard, était lui-même un élève de Louis Vierne, qui est très connu.
Immense organiste.
Et donc, forcément, il a hérité de cette école-là. Donc, c'est l'école, effectivement, romantique, symphonique, post-symphonique, donc début 20e.
Donc, des musiques grandioses qui mangent tout l'espace sonore. Hein.
Oui, des musiques grandioses, longues, sur des gros instruments, etc. Et des musiques élaborées, évidemment.
Très élaborées, et souvent techniquement un peu chouf. Ouais. Il faut y aller. Ouais. Et alors vous, votre papa, c'était ça. Ouais. Et vous, alors votre papa travaillait aussi avec un prêtre, un chanoine, qui tous les ans lui permettait, c'est lui qui lui offrait un bon d'achat.
Oui.
Et un jour, votre papa a dit, tiens, achète-toi ce que tu veux avec le bon d'achat que le chanoine vient de m'offrir cette année. Et là, ça a été un choc épouvantable pour vous, enfin épouvantable. Positivement, c'est-à-dire que vous avez découvert un autre univers.
Alors, ça a été un choc déjà parce que mon papa me donnait la carte blanche pour choisir un disque vinyle de mon choix. Et donc, j'ai évidemment choisi un disque de musique d'orgue. Et en fait, à l'époque, Michel Chapuis venait de sortir son vinyle, un enregistrement emblématique que tout le monde, tous les musiciens ont, tous les organistes ont, qui est l'enregistrement de François Couperin à l'orgue de Saint-Maximin.
Alors, on va détailler, hein, parce que c'est compliqué. D'abord, Michel Chapuis, qui vient de nous quitter il n'y a pas très longtemps. Immense organiste baroque, immense pédagogue également. Il y a des cours de Chapuis qui ont été enregistrés. C'est pour un organiste que je suis, mais médiocre, mais que je suis quand même, c'est passionnant. Ouais. Et Chapuis, donc, c'est un des hommes qui a retrouver la manière de jouer baroque qu'on avait un peu perdu avec le 19e siècle. Et vous êtes tombé sur ce monsieur et sur des orgues. Alors vous allez nous en parler, vous êtes plus compétent que moi pour le faire. Sainte-Maximin, la Sainte-Baume. C'est un orgue qui a failli être détruit d'ailleurs, mis au goût du jour. Et il y a une association locale qui s'est battue, qui a dit « touchez à rien ». Et heureusement. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier cet orgue? C'est un monstre, hein?
Ah, c'est un monstre, alors un monstre à tout niveau. Déjà, c'est un gros orgue. C'est ce qui se faisait de plus gros et de plus polyvalent et à l'époque du 18e siècle. C'est un orgue de Hisnard, facteur d'orgue 18e.
Donc on est dans un orgue baroque français.
Un orgue baroque français. Et ce qu'il a de merveilleux, c'est qu'il est d'abord il est dans une acoustique incroyable.
Ah oui.
Et il est dans son jus d'origine.
C'est ça. Mais grâce à cet assaut, hein, qui, dans les années 60, a dit « vous touchez à rien ».
Oui. Et donc Michel Chapuis a choisi cet instrument-là parce que il est emblématique et surtout, il avait encore ses sonorités d'origine.
C'est un orgue, on dit qu'il y a 10 registres de trompette. Alors un registre de trompette, ça sonne déjà fort, mais 10, ça doit faire quelque chose.
Oui, oui, oui. Oui, mais ça donne, au regard de la puissance, ça donne un timbre aussi qui est très différent.
Alors, voilà. Chapuis, l'orgue et maintenant François Couperin. On est dans quelle période? C'est le baroque français flamboyant là aussi. Hein.
C'est le renouveau de l'orgue. Vous savez, il y a des modes et des tendances. Et moi, je suis arrivé au moment où la grande tendance était de revenir à ce qu'on appelle l'orgue dit classique français. Alors, qu'est-ce que c'est classique français? C'est tout simplement ce qui s'est passé avant la Révolution en France. Donc je tombe là-dedans. Donc je choisis ce disque vinyle un peu au hasard. Hein. J'étais même pas au courant. Je connaissais très vaguement Michel Chapuis de réputation. Et ce fut une révélation parce que c'était en totale opposition de ce que m'enseignait mon papa.
Oui, c'est pas la même chose.
Ça n'a rien à voir. On est en contradiction totale. Et ça m'a touché, ça m'a ému. Et tout de suite, j'ai été passionné par cette musique et je m'y suis intéressé
musique baroque
toute
française.
Ma vie, musique classique française baroque. Ouais.
Et pour la petite histoire, c'est donc Couperin a écrit deux messes pour les paroisses et pour les couvents, et c'est ces deux messes extraordinaires, c'est mythique, qu'il avait enregistrées. Michel Chapuis aux grandes orgues provençales de la Sainte-Baume avec un extrait de la messe des paroisses de François Couperin. Olivier Chevron, ce disque, vous nous le disiez, a été le déclencheur d'une passion pour la musique d'orgue baroque française, alors que vous n'étiez encore qu'un petit garçon. On va revenir à la passion facteur d'orgue. Alors, donc le petit garçon de 14 ans trouve un atelier chez Laurent Plé à Troyes, et puis... Entre-temps, il a fallu aller se former, devenir aussi menuisier ébéniste, parce que c'est quand même la base.
Oui, 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 je ne voulais pas brûler les étapes. C'était sur l'inconseil d'un facteur d'orgue, justement Jean Renaud à l'époque, qui m'avait conseillé, donc j'avais 17 ans à l'époque, qui m'avait conseillé de rentrer en apprentissage menuisier ou ébéniste avant de commencer l'apprentissage de facteur d'orgue, ce que j'ai fait. Avec brio, et du coup, l'enfant qui était mauvais, on va dire, à l'école, est devenu quasiment le premier de la classe.
Et ben voilà.
Ben oui.
Alors, on ne l'a pas dit, mais c'est combien de métiers un facteur d'orgue et un atelier ?
C'est très compliqué. Je disais que là-bas, c'était le travail du bois, donc il faut être menuisier, mais on ne fait pas vraiment de la menuiserie. Sauf si pour le meuble, ce qu'on appelle le meuble, donc le buffet, c'est ce qui se voit d'en bas. Il faut comprendre qu'un instrument est plein comme un œuf. À l'intérieur, il y a des mécanismes, il y a des sommiers, tout ça c'est en bois. Et c'est un des rares métiers où on trouve de la mécanique en bois. Donc il faut être menuisier, mais c'est pas vraiment menuisier, c'est de la mécanique, mécanicien en bois. Voilà. Après, il faut travailler la peau, le parchemin, le cuir, des métaux différents, l'étain, le plomb, le cuivre. Il faut être architecte, il faut être charpentier aussi un petit peu. On
dessinateur.
Dessine, dessinateur. Et c'est vrai qu'il faut être accordeur. Donc il faut avoir un peu d'oreille quand même.
Oui. Et accorder un orgue, c'est super long. Ça peut durer des jours et des jours. Ça dépend de la taille de l'instrument.
Alors tout dépend de la taille d'instrument. Pour vous situer, je vais prendre un cas extrême à Notre-Dame de Paris. Pour accorder tout l'orgue, alors je ne parle pas de l'harmonisation qui est autre chose, on pourra en parler peut-être.
On en reparlera.
Mais l'accord d'un orgue aussi gros, c'est à deux personnes, c'est 4 semaines de travail. C'est un peu plus que pour accorder une guitare.
Olivier Chevron, quand on a appris son métier, quand on a un petit peu fait le tour de France, parce que quand même vous avez vu pas mal de patrons, j'imagine, et puis vous avez vu pas mal de chantiers, on décide de s'installer à son compte. Comment ça se passe, ça ?
C'est difficile comme question. Disons qu'à un moment donné, on souhaite dépasser le fait d'être simple ouvrier derrière son établi. Et surtout, en tout cas, c'était moi une des raisons principales, je voulais absolument toucher à tout dans un orgue, faire un orgue de A à Z. Et vous comprenez qu'un orgue, ce n'est pas une guitare ou une flûte à bec. Et pour construire un orgue, c'est un travail d'équipe. Et donc, pour arriver à faire un orgue de A à Z, bah, il se passe au moins 10 ans. Mais si tu veux, à un moment donné, on construit un sommier pour un orgue, on va faire que ce sommier. L'orgue suivant, on va faire les claviers. L'orgue suivant, on va faire la soufflerie. Et pour avoir touché à toutes les parties d'un orgue, il faut une dizaine d'années. Et en fait, je voulais toucher à toutes les parties. Et je me suis dit que la meilleure solution, c'était de m'installer à mon compte pour faire un orgue de A à Z.
Qu'est-ce qui est le plus agréable à faire dans un orgue, à construire ?
Le plus agréable, alors la finalité, c'est évidemment le son, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est un instrument de musique, avant tout. Mais j'ai envie de dire, c'est toutes les parties, y compris la phase, moi qui me passionne, la phase de création, en fait. Où en fait, on va voir le client, et il nous dit, on veut un orgue, qu'est-ce que vous proposez ? Donc là, c'est très complexe parce qu'un orgue, il y en a 12 000 en France,
il y a pas de
60 000 en, pour prendre un autre exemple, 60 000 en Allemagne, dans le monde, il y en a des milliers et il n'y en a pas deux identiques.
Non. Alors, on s'installe comment, Olivier ? Il faut acheter des machines, il faut trouver un local, il faut trouver des clients, parce que il ne suffit pas de dire je suis artiste facteur d'orgue.
Alors déjà, il faut avoir le culot de se dire on passe de l'autre côté de la barrière. Bah ensuite, on va voir la chambre de métier, ça c'est incontournable, hein. Il faut faire le fameux stage entrepreneur, de comptabilité, de gestion d'entreprise, c'est vraiment des rudiments. Et puis ensuite, effectivement, il faut aller à la chasse. Alors le plus difficile, c'est la chasse à la banque.
Ah bon ?
Trouver la banque qui vous fait confiance.
Ah non.
Ça c'est très compliqué.
Et on trouve ?
Oui, moi j'ai eu beaucoup de chance la première fois où j'ai fait juste 5-6 banques, pas plus.
Donc vous vous installez ? Première expérience de patron, ça se passe comment ? Il faut partir à la chasse au marché ?
Oui, alors déjà, j'ai démarré tout seul, j'avais pas d'employé, pas d'apprenti. Et donc, en fait, il faut toujours un marché déclencheur. Il se trouve que j'avais une copine à l'époque, qui était organiste, tu m'avais laissé entendre que avoir un orgue à la maison, ça lui ferait plaisir. Donc, elle m'a passé commande d'un instrument. C'était mon premier instrument que j'ai fait évidemment pour 3 francs 6 sous.
Il est où
à l'époque? Ben, c'est un orgue privé qui est chez elle. Donc, je ne dirai pas le lieu.
Et il ressemblait à quoi cet orgue?
Bon, c'est un tout petit orgue. Ça se met dans son salon. C'est gros comme une armoire. Puisqu'on parlait des jeux tout à l'heure, il y a 4 jeux, 2 claviers. Voilà. Donc, ce qu'on appelle un orgue d'études en fait.
Alors, on va le dire, tiens, très rapidement, parce qu'on ne l'a pas encore dit, on a parlé du nombre de claviers, mais on n'a jamais dit que c'était le seul instrument au monde où on a le droit de jouer comme un pied.
Oui, oui, et il vaut mieux bien jouer comme un pied, tout à
voilà,
fait.
Voilà, parce
que. Et avec les deux pieds.
Oui, avec les deux. Il y a un clavier pour les pieds.
Et oui, parce que contrairement à, par exemple, à une voiture, vous avez une voiture, vous avez 3 pédales, et bien dans l'orgue, il y a, selon les instruments, 30 ou 32 pédales.
Et c'est de la danse. Hein.
Et c'est de la danse, c'est très ardu.
Il faut y aller. Hein.
Il faut y aller. Voilà.
Alors, donc, c'est cet instrument de clavier pédalier, j'imagine, puisque c'est un orgue d'études. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé?
Et ensuite, j'ai répondu à mon premier marché d'appel d'offres. Alors évidemment, quand on n'est pas connu, on répond à ce qui reste, on va le dire comme ça. Hein. Donc un marché que personne ne voulait répondre parce qu'il n'était pas très intéressant, autant sur le plan technique, artistique que financier. Donc je réponds à ce marché, je le remporte.
On peut en parler?
C'était l'orgue de Pouzeau, j'en vendais. Donc c'était une restauration, modification, voilà. Donc j'ai mis tout mon cœur, toute mon âme dans ce travail et ça a plu. Et chemin faisant, j'ai pu décrocher un chantier par la suite. Ma première restauration d'un orgue classé de monument historique. Bon, c'était un tout petit orgue, mais dans les Vosges, à Montureux-sur-Saône. Un orgue de 9 jeux, vraiment tout petit. Mais un orgue classé, quoi. Donc quelque part, ça rigole pas, c'est classé. Il faut le restaurer et dans son jus d'origine et avec les matériaux, l'école, enfin les techniques d'origine. Voilà, faut pas faire n'importe quoi.
Olivier Chevron, donc, premier chantier. Ensuite, le patron, c'est combien de pourcentage de son temps d'aller chercher les marchés?
C'est énorme. C'est absolument énorme. Alors, ça dépend des périodes. Moi, j'ai des périodes où ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un marché, parfois, ça s'étale sur 2, 3, parfois 4 ans sur les gros orgues. Donc, pendant un certain temps, lorsqu'on a les marchés, on va pas à la chasse, j'appelle ça comme ça. Et puis, il y a des périodes où on a terminé l'orgue, on a besoin de trouver du travail, on va à la chasse. Et alors là, on passe son temps, on fait que ça, en fait.
C'est agréable ou pas?
Alors, c'est à la fois agréable et à la fois désagréable. Désagréable parce que c'est toujours angoissant et puis on est toujours sous le joug, il faut qu'on trouve un client, quoi. Mais c'est agréable aussi parce que c'est là qu'on visite les instruments, on voit les clients, on discute avec eux.
Et qu'est-ce qui est agréable? C'est de construire ou c'est d'intervenir sur des instruments prestigieux qui existent déjà et qu'il faut faire revivre?
Alors, pour reprendre une phrase d'un de mes maîtres, Laurent Play, qui me disait qu'on ne peut pas être constructeur et restaurateur à la fois, ce sont deux métiers totalement différents. Moi, j'ai envie de dire, effectivement, c'est deux métiers différents, mais on peut, si on est passionné par les deux, on peut les pratiquer correctement.
Et vous seriez plutôt restaurateur ou constructeur alors?
Pour avoir pratiqué les deux, aujourd'hui et même hier, j'aime les deux. Donc, je me sens, on va dire, pas trop mauvais dans les deux.
Alors, on va parler de chantier. Là, il y a un chantier en particulier, c'est dans l'Est de la France, à Saint-Mihiel. Vous êtes intervenu sur un orgue extraordinaire. Il faut nous raconter déjà de quel orgue il s'agit, et ensuite le travail qu'on vous a demandé, parce que là, c'est juste du plaisir d'aller travailler sur des chantiers pareils.
Alors, Saint-Mihiel, c'est un orgue emblématique. Tout le monde, en tout cas dans la profession, connaît le buffet de l'orgue, l'image de cet orgue-là. Tout le monde savait avant le début de mon intervention que cet instrument méritait très très largement une restauration.
Il date de quand?
Alors il date de 2 ans avant la Révolution française. C'était un orgue de Jean-François Vautrin, qui était un élève, alors il n'était pas très connu Vautrin, mais il était élève de quelqu'un beaucoup plus connu, il était élève de François-Henri Clicquot, qui est vraiment la crème, c'est la référence de la facture d'orgue au XVIIIe siècle. Ouais. François-Henri Clicquot, il a signé le Clicquot de Poitiers.
Voilà, qui est alors quand on parle de l'orgue de la cathédrale de Poitiers, là, tous les organistes ont les poils.
C'est un orgue mondialement connu, les gens viennent du monde entier pour écouter et jouer cet instrument. C'est un instrument extraordinaire parce que c'est le dernier de François-Henri Clicquot, c'est le plus gros qu'il ait fait, il n'a pas été touché, il est dans son jus d'origine. Donc c'est ce qu'on recherche, nous, en tant que facteur d'orgue, les instruments qui n'ont pas été modifiés.
Alors Saint-Mihiel, c'est le cas? C'est un instrument qui n'avait pas été altéré?
Ah, Saint-Mihiel avait été très, très largement altéré. Et donc le but de la restauration, c'était de restaurer les éléments qui étaient encore d'origine et surtout de recréer les parties qui avaient disparu. Donc c'est passionnant aussi.
Il a fallu faire une recherche historique.
Donc, il a fallu faire des recherches. Alors les orgues, en général, on va voir les instruments du même facteur. Donc Vautrin, il y a quasiment rien de qui reste de Vautrin. Et donc à défaut, mais c'est un très bon défaut, on va chercher vers ses collaborateurs, donc son professeur François-Henri Clicquot. Donc nous nous sommes inspirés de ce fameux instrument qui est à Poitiers, à la cathédrale. Cet instrument emblématique.
Alors, Samiel, donc très bel orgue baroque français, aujourd'hui tout neuf.
Oui.
On peut le dire.
Oui.
Avec un buffet sur lequel... Alors, il y a eu un travail énorme sur le buffet parce qu'il a fallu retrouver des couleurs et surtout des matériaux d'origine pour faire les couleurs. Ça aussi était passionnant.
Oui. Oui. Il faut savoir qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, les buffets d'orgue étaient toujours peints. On les trouve encore... Alors, ça, c'est à l'échelle européenne. Hein. À l'étranger, ils sont encore peints, souvent d'origine. Mais en France, après la Révolution, la plupart des buffets ont été décapés et donc sont couleur bois. Donc pendant de nombreuses années, les gens étaient persuadés que les orgues français, à l'époque, c'était ça, c'était couleur bois. Ce qui est une grosse erreur, parce qu'en fait, on retrouve des traces, des fragments de peinture un peu partout. Et à Saint-Mihiel, il y en avait vraiment partout. Et donc, c'était une couleur ocre, comme la plupart des buffets en France d'ailleurs. Donc on a retrouvé exactement la même couleur, une peinture à la détrempe, la même technique, à la colle de peau de lapin en fait.
À la colle de peau de lapin.
Oui, oui, oui. C'est une colle chaude, voilà, mélangée avec des pigments, etc. Donc on a fait tout ce travail de recherche de couleurs et de texture de peinture, donc on l'a remise en peinture. Et là, vraiment, alors on n'avait pas de photos à l'époque évidemment, donc on ne sait pas comment il était, mais a priori, comme on avait de nombreux fragments, il y a une forte présomption, il était comme ça.
Et bizarrement, c'est une couleur qui ne plaît pas aux chauves-souris apparemment.
Oui, c'est une petite anecdote, oui. Oui. Il se trouve qu'à Saint-Mihiel, il y a une association qui, pour la défense de ces chauves-souris qui nous a dit, moi ça m'amuse aujourd'hui, mais à un moment donné... Il nous
ça ne fait
dit,
pas rire au début.
Non, ça ne m'a pas fait rire sur le coup, qui nous a dit que cette couleur ne plaisait pas aux chauves-souris, enlevez-moi cette peinture.
Alors Saint-Mihiel, il sonne aujourd'hui, c'est un instrument qui fonctionne ?
Oui, c'est un instrument qui fonctionne. Bon, il n'est pas tout à fait fini parce que c'est un marché à tranches. Ça, c'est les marchés publics. Hein. Donc,
oui.
Donc toutes les tranches ne sont pas signées. Parce que c'est Saint-Mihiel, je rappelle, c'est une commune qui a un patrimoine culturel absolument incroyable. Et c'est une petite commune, donc ils n'ont pas l'argent. Et ça coûte très cher. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont fait ce marché à tranches. Malheureusement, ils ont du mal un peu à trouver l'argent, les finances. Donc pour l'instant, il y a certaines parties qui sont finies, d'autres en attente.
Caroline Robinson dans un extrait des Planètes de Gustav Holst, transcrite pour orgue. Olivier Chevron, après l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019, on est venu vous chercher à Liourdres, dans votre atelier installé loin du bruit et de la fureur parisienne, pour travailler sur les grandes orgues. Alors, qu'est-ce qu'on vous a demandé exactement ?
Alors, dans un premier temps, on nous a réquisitionné, et en fait, on n'a pas eu le choix. Et pourquoi on nous a demandé à nous ? Tout simplement parce que c'est un instrument qu'on entretient depuis des années, pour ne pas dire des décennies. Donc on le connaît par cœur. Donc il fallait bien trouver un facteur d'orgue en urgence pour démonter, déjà dans un premier temps, pour démonter l'instrument. Donc on nous a réquisitionné.
Vous étiez combien d'ateliers sur l'affaire ?
Alors il y avait 3 ateliers sur l'affaire. Donc nous, l'atelier Coirin, qui se trouve dans le Vaucluse. Et puis l'atelier, la MLGO, qui se trouve à l'Odève.
Comment ça se passe ? Parce que je crois que ça a été quand même un peu rock'n'roll. Il a fallu vous habiller en cosmonaute à cause des poussières de plomb, etc. Ça n'a pas été un chantier facile, hein, le démontage, le nettoyage, là. Hein.
Ça a été très difficile parce qu'on nous a demandé de faire quelque chose qui, de mémoire de facteur d'orgue, aucun facteur d'orgue, à ma connaissance, n'a jamais fait ça dans sa carrière.
C'est-à-dire, vous avez tout nettoyé au chiffon.
Alors, démonter, nettoyer, ça on sait faire. Mais dans des conditions dites plomb, qui, je rappelle, sont très proches des conditions amiantes, on n'avait jamais fait ça. Alors, pour rappel, nous, le plomb, on le travaille régulièrement dans nos ateliers. Mais là, ce n'était pas du plomb, c'était du monoxyde de plomb, qui est à peu près 6 fois plus dangereux que le plomb.
Alors, c'est quoi le souvenir quand on arrive sur le chantier ? Parce que ça a brûlé, ça y est, et on arrive sur le chantier.
Alors moi, la première fois que j'y suis allé, moi, j'ai eu un choc. Hein. Un choc, ça n'a l'air de rien, mais quand vous rentrez dans cette cathédrale... Tout le monde y est rentré avec le brouhaha. Moi, j'ai même vu des enfants jouer au ballon dans les bas-côtés.
Carrément.
L'ambiance générale, les messes, la lumière, etc. Et vous rentrez dans cet édifice, c'est le silence total. Avec ce monoxyde de plomb qui est partout. Ici, il y a une poussière un peu gris-bleu, extrêmement fine. Un peu comme du sable, mais beaucoup plus fin que le sable le plus fin qui existe. Une ambiance de lunatique, de mort. C'est assez spécial.
Et l'odeur ?
Et l'odeur, une odeur aussi, effectivement. C'est très particulier. Moi, ça m'a fait un choc, d'autant plus que je connaissais l'instrument.
Qui n'a pas été touché par l'incendie. Il a été abîmé par les conséquences de l'incendie, mais
il
pas
a
touché.
Été épargné. Je pense deviner qu'il y a eu des consignes auprès des pompiers pour justement faire en sorte que le grand orgue ne soit pas touché par les flammes. Effectivement, il n'y a rien eu. Bon.
Ah, c'est un orgue historique dans la mesure, d'abord c'est Notre-Dame de Paris, ensuite il a été joué pendant des années par un immense monsieur qui était Pierre Cochereau et on ne pouvait pas se permettre de perdre ça.
Non, il y a un immense personnage effectivement, et puis d'autres, les organismes du monde entier ont joué cet orgue-là. C'est un orgue emblématique qui retrace la facture d'orgue en France. Il faut reconnaître que c'est un instrument qui a des tas d'époques, ça remonte jusqu'au 15e siècle. Et à chaque fois, à chaque époque, on a fait appel au facture d'orgue le meilleur de son époque. C'est comme ça qu'on a le fameux Clicquot est passé par là aussi. Dallery, Cavaillé-École, Boisseau.
Boisseau, c'est plus récent. Hein.
C'est plus récent,
c'est
oui.
Quelqu'un que vous avez connu.
c'est plus récent. Mais d'autres, plus anciens.
Et alors, voilà, on arrive sur le chantier, c'est le choc. Et par quel bout on prend le truc ?
Bah déjà, en fait, moi, quand je suis rentré la première fois, bah, j'étais scotché, j'ai rien fait, en fait. J'ai déambulé dans l'orgue, j'ai regardé, je me suis lamenté. Et très très vite, on prend le dessus, on se dit, oh là là, on nous demande de démonter ça, comment on va faire ? Et puis on cherche et ça rumine dans la tête et voilà. Mais vraiment l'ambiance très morbide quoi. C'est vraiment.
Mais vous avez pris du plaisir quand même à redonner vie à cet instrument.
Ah ben oui, puis c'était moi je l'ai pris comme un devoir. Alors le plaisir c'est toujours un plaisir de travailler à Notre-Dame, hein. Surtout sur un orgue comme ça, dans un édifice comme ça. Donc oui, il y a du plaisir. Mais c'est pas toujours simple non plus.
Il a fallu déposer tous les tuyaux, les nettoyer intérieur, extérieur,
oui.
Les sommiers, les claviers, tout, on fait l'électronique. C'est invraisemblable, on a du mal à imaginer.
Alors, je parlais de la réquisition. Au moment de la réquisition, on nous a juste demandé, en urgence, de démonter l'instrument, de mettre en caisse ce qui était possible de mettre en caisse. Ça s'arrêtait là. Et donc, on a fait ce qu'on appelle une pré-décontamination. C'était le mot employé à l'époque, décontamination. Voilà. On a fait une pré-décontamination. Pour faire simple, on a dégrossi quoi, en urgence. Et ensuite, il y a eu un marché qui a été lancé, donc on a remporté le marché. Et c'est là qu'on a décontaminé plus sérieusement les tuyaux, notamment. Nous, notre partie, c'était les tuyaux, puisque chaque entreprise avait sa phase. Une entreprise a fait les sommiers, l'autre l'électronique. Nous, c'était les tuyaux, donc on a ramené tous les tuyaux en atelier.
Ici, à Lourdes ?
À Lourdes.
Les tuyaux de Notre-Dame de Paris sont passés à Lourdes.
Les 8000 tuyaux sont passés à Lourdes. Alors, j'en ai pas fait de la publicité parce que c'était préférable.
Oui, mais j'en reviens pas.
Ils sont tous venus à Lourdes. On les a tous nettoyés très, très finement, très sérieusement à Lourdes et ils sont remontés.
Et puis, dis donc, il faut de la place quand même pour entreposer tout ça. Là, c'est
pour
chose,
pour hein. L'occasion, on avait trouvé un second local.
D'accord.
On va dire une succursale.
Oui, il fallait.
Spécifique à Notre-Dame. Et oui, ça prend de la place, 8000 tuyaux. Il ne faut pas pareil. Oublier que les plus gros tuyaux mesurent plus de 11 mètres de long, pour prendre les plus gros.
Alors, on ne parle pas en mètres, hein, quand on est facteur d'orgue, on parle en pieds.
Oui.
Ça
oui.
fait à peu près 32,5 cm un pied, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Alors oui, on parle en pieds parce que c'est un langage un peu ancien, en fait.
Bah, en fait, il y a une explication à ça, en fait. Quand on joue le premier do du clavier... Il se trouve que physiquement, ça mesure 8 pieds pour un jeu de taille moyenne. On ne dit pas on va tirer tel jeu de 2,5 m. Non, on va tirer le jeu de 8 pieds. C'est beaucoup plus simple.
Alors, il y a 8, 4, 2, 16, 32.
Voilà.
Le donc, 64, on ne l'a pas encore inventé.
Et donc, en fait, pour faire comprendre les choses, le 4 pieds est à l'octave aiguë du 8, le 2 pieds à la double octave du 8, et dans l'autre sens, le 16 pieds à l'octave inférieure du 8. Et ça va jusqu'au 32, effectivement, qui est voilà. très grave.
Et il y a des jeux, quand on appuie sur un do, ça joue un mi, ça joue un sol. C'est compliqué. Hein,
oui, c'est très compliqué. On appelle ça les jeux de mutation. Alors, en fait, pour ceux qui ont fait un petit peu de musique, on reprend l'échelle de Fourier, qui est l'échelle des harmoniques. En fait, dans un orgue, c'est une machine. En fait, c'est l'ancêtre du synthétiseur.
Oui. Ah, oui,
c'est une machine à créer des sons par les harmoniques, notamment. Donc, effectivement, quand on joue un do... On peut tirer un jeu qui s'appelle par exemple la quinte. Quand on va jouer un do, on aura un sol.
On va entendre un sol.
Ouais. On a des tierces. À Notre-Dame, il y a des septièmes.
Ah oui, il y a des septièmes. Moi, j'ai jamais vu ça.
Il y a des neuvièmes maintenant. Et en fait, plus on va dans l'échelle des harmoniques, plus on enrichit le son, plus on augmente la puissance aussi. Mais le but, c'est surtout d'enrichir le son, de modifier le timbre. Et on peut avoir des 15e, des 17e, enfin il n'y en a pas à Notre-Dame.
15e, il y en a sur les accordéons.
Oui.
Et 15e, d'accord. Le jeu de 15e, ouais.
D'accord.
Alors, on va revenir à Notre-Dame. Donc, aujourd'hui, l'orgue va reparler quand ? On a un calendrier pour ça ?
Alors, on commence le début d'harmonisation dans 2 semaines.
Et c'est quoi une harmonisation ? Parce qu'il y a l'accord et l'harmonisation. On ne l'a pas dit tout à l'heure, ça.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le tuyau est construit, il ne parle pas, c'est le terme, le jargon, le fait de donner un son, il parle. Voilà. Il ne parle pas, ou si on a de la chance, il parle, mais avec un très mauvais timbre, avec des défauts de souffle, de bruit divers et variés.
Il fait poète, quoi.
Il fait poète, voilà. Il fait poète. Le but de l'accorder, c'est de l'accorder à sa juste hauteur, à sa fréquence. Par contre, l'harmonie, c'est un travail beaucoup plus conséquent qui consiste à donner vraiment le timbre au tuyau. Et ça, je rappelle que les tuyaux sont faits d'alliage d'étain plomb, c'est très malléable. Donc on a des outils, on tire, on pousse, on ouvre, on ferme, enfin bref. Et ça se voit même pas à l'œil nu. Hein. Parfois on bouge de 1/100 de dixième de millimètre. On a des marteaux, on a des marteaux d'horloger, des mini-marteaux, on tape. Et ça change le timbre.
Et là, à un moment donné, c'est l'oreille du facteur.
Ah, c'est l'oreille, tout se fait à l'oreille, évidemment.
Et alors, je ne l'ai pas dit, mais vous avez repris l'atelier de Bertrand Catiot, qui est un homme très connu pour ses qualités d'harmonisateur.
Oui, c'est ça.
Il est réputé un peu partout quand même. Hein.
Il est réputé, on peut dire, en tout cas, à minima en France et en Europe, et même parfois aux USA. Enfin,
la dernière fois que je l'ai vu, il revenait des USA, effectivement.
Oui,
pour accorder deux jeux, d'après ce que j'ai compris.
Oui.
C'est-à-dire qu'on lui a payé le voyage pour deux jeux.
Oui, c'est ça.
Incroyable.
C'est ça. Il va souvent là-bas. Il est connu pour ses qualités de fin harmoniste. Donc, et j'essaye, moi, à ma modeste mesure, de reproduire son enseignement.
Oui. Et du coup, il continue de travailler avec vous, Bertrand Catiot
Oui, il est théoriquement à la retraite, mais vous savez, c'est un métier de passion. Donc, il travaille encore un petit peu pour moi ou pour d'autres.
D'accord. Et sur Notre-Dame, il va intervenir avec vous
Ah oui, bien sûr.
une harmonisation, donc vous nous disiez Notre-Dame de Paris, donc ça veut dire que l'instrument est remonté, il est nettoyé, il est prêt à servir. Ça va durer combien de temps l'harmonisation ?
Alors il y aura deux phases, une phase de 3 mois, donc ça commence en 2 semaines, pendant 3 mois, et une seconde phase en septembre-octobre, et normalement fin octobre c'est terminé.
Ça veut dire...
C'est très long.
D'abord, et ensuite vous n'allez pas être beaucoup chez vous.
Et oui.
Qui va nourrir les poissons rouges ?
Ah,
j'ai envie de dire. Non, mais c'est vrai, c'est un métier. Vous êtes tout le temps dehors, en fait.
Oui.
Tout le temps à l'hôtel, au restaurant, etc. C'est une vie d'équipe. Est-ce qu'on reproduit un peu une vie de famille à l'extérieur avec l'équipe ?
Avec l'équipe, oui, bien sûr. C'est préférable, c'est presque nécessaire. Et ça se fait de manière naturelle. Moi, j'ai rarement vu des gens qui s'entendent pas en déplacement. Mais effectivement, pour revenir au poisson rouge, c'est une image, mais c'est une vie qui n'est pas facile pour ceux qui sont en charge de famille, par exemple.
Casanier s'abstenir,
oui.
Vraiment. Oui. Et je reviens une dernière fois sur Notre-Dame. Vous êtes pressé de le voir finir, ce chantier, ou pas ?
À la fois, on a hâte, mais en même temps, je sais pas si on peut parler de peur, mais donc, on nous attend au virage. Pour reprendre une phrase de Monsieur Georgelin, le général Georgelin, le monde entier vous regarde.
Et vous, facteur d'or, vous croisez de très 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 grands musiciens. Comment ça se passe, les rapports entre facteur et...
Alors déjà, c'est très très plaisant, c'est très honorifique. Moi, je kiffe, pour reprendre une phrase de rencontrer tous ces gens-là qui ont un savoir, qui sont... Et puis en même temps, je pense qu'ils apprennent de nous et nous, on apprend beaucoup d'eux.
On peut dire qu'un des titulaires de Notre-Dame est souvent venu à l'atelier à Lourdes, Philippe Lefebvre,
oui.
Moi j'y ai vu personnellement,
oui, oui.
Ce sont des gens très modestes,
très modestes,
et pourtant qui n'ont pas le même cerveau que la plupart des gens.
Oui, c'est des gens, vous savez, c'est des gens, pour prendre l'exemple de ces gens-là, ils parcourent le monde, ils donnent des centaines de concerts par an.
Et tout par cœur.
Par an.
Et tout par cœur.
Et bien souvent tout par cœur. Ils connaissent tous les orgues du monde entier, c'est un vrai plaisir de parler avec ces gens-là.
Et quand on arrive sur un orgue, on commence par regarder à quoi il ressemble. On
oui.
peut pas dire, y a pas d'habitude, quoi. Si un jour on est à Paris, le lendemain on est à Poitiers, il faut changer tout son paradigme et refaire tout son programme.
Ça, je pense que oui. Alors ça, c'est une faculté qu'ont les organistes, de savoir s'adapter. Un pianiste, il jouera toujours sur le même, enfin presque sur le même piano.
Surtout maintenant.
Mais c'est vrai qu'un organiste, en fait, de tout temps, ils se sont habitués à chaque fois à jouer sur des instruments différents. Et donc, par conséquent, à s'adapter. Et c'est vrai que moi, quand je regarde, ce que j'adore, c'est de voir les organistes, quand ils arrivent sur une tribune qu'ils n'ont jamais joué, ils n'ont jamais joué l'orgue, de voir comment ils s'approprient l'orgue. Et souvent, je reste à côté, et ça, c'est extraordinaire. Ils ont tous une méthode très différente, mais elle est passionnante. Et ça va très très vite.
Charles Balayer lors du festival Toulouse Les Orgues dans une improvisation sur un thème de Sonny Rollins. Sur ACX, retour à Liourdre dans l'atelier de facture d'orgue animé par Olivier Chevron, facteur d'orgue. Olivier, on le disait il y a un instant, vous avez été réquisitionné pour travailler sur l'orgue de Notre-Dame de Paris après l'incendie des 15 et 16 avril 2019. Et ce chantier, le sauvetage des grandes orgues de Notre-Dame, a été emblématique de la renaissance de la cathédrale.
Ah oui, ça a été un petit peu le chantier dans le chantier. Même si on parle souvent plutôt de la maçonnerie, de la toiture, de la couverture, mais c'est vrai que l'orgue, on n'a jamais parlé autant d'orgue par les médias depuis que la cathédrale a brûlé.
Olivier Chevron, on va parler des orgues qui sont dans notre région, en Corrèze. Donc on a un orgue baroque français tout neuf qui est à Meymac, qui est formidable d'ailleurs, hein,
oui.
Qui a été construit par un Italien bizarrement.
Oui, par Monsieur Formentelli, voilà. Italien.
Vous intervenez sur cet orgue, c'est pas vous ?
Malheureusement non.
D'accord. C'est une belle bête quand même.
C'est un très bel orgue, un très bel orgue.
Par exemple, moi en tant qu'organiste, je me demande comment on voit pas du tout l'autel. Donc pour accompagner les liturgies, ça va pas être simple quand même. On est dans un petit recoin là.
Vous savez, autrefois il n'y avait pas la vidéo. Maintenant les grandes paroisses ont des vidéos, des télés, etc. Mais avant, tout se faisait à l'oreille. Donc les organistes, en fait, ils écoutaient. Et par le son du renouement du service, ils arrivaient à savoir quand intervenir. C'est un métier.
Il y a aussi dans notre région donc l'abbatiale de Beaulieu avec un orgue qui est un peu fatigué, on va dire. Il serait temps de s'en inquiéter un petit peu avant qu'il ne disparaisse. Et alors il y a un orgue un petit peu historique, c'est à la collégiale de Mauriac, orgue qui tombe en petit bout. Peut-être vous êtes intervenu dessus, non ? C'est un orgue qui a été fabriqué, je crois, en Auvergne au 19e siècle.
C'est un orgue romantique donc au 19e de l'entreprise Stoltz. Qui est assez connue, moins connue que celle de Cavaigol, mais quand même assez connue. Oui, j'ai eu l'occasion de faire une petite intervention de 2 jours sur cet instrument il y a 2 ans à peu près. Bon, c'est un orgue en très 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 mauvais état, donc le peu que j'ai fait n'a pas fait vraiment avancer le bateau.
Parce que c'est horriblement cher, en fait, il faut tout défaire, tout refaire là-haut.
Ah, ça coûte très cher, là,
oui. Et puis vous avez fait Saint-Martin-de-Brive aussi,
oui,
alors qui on a été remonté, ça y est.
Oui, alors on a fait ce qu'on appelle un relevage. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un relevage, c'est pas tout à fait une restauration, c'est une restauration minimaliste, qui consiste à tout revoir. J'entends minimaliste en ce sens que le but n'est pas de retrouver l'instrument d'origine, le but est de le restaurer en l'état.
De le remettre en état.
En état, d'accord. En l'état. Donc on vient de terminer ça, donc un orgue de Stoltz également, un très très bel orgue.
Un bel orgue, oui, un peu comme à Ussel, mais Ussel c'est moins formidable, c'est un petit Stoltz à Ussel.
C'est un petit Stoltz.
Voilà, et alors on va se quitter avec le chantier emblématique. Il y a Notre-Dame de Paris et puis il y a Notre-Dame de Chartres.
Ah oui.
Là, vous êtes dessus en plein.
Oui. Alors, Chartres, nous sommes en association avec l'entreprise Milaison qui se trouve en Alsace. Donc là, orgue très emblématique, notamment par le prix international.
Oui. Alors, on va le rappeler. Le prix international, ça a dû débuter en 71-72. C'est-à-dire que tous les plus grands organistes du monde se donnaient la rendez-vous là. C'était un concours, le concours d'orgue de Chartres.
Oui, oui.
Et les plus grands doigts, les plus grands monstres de l'orgue sont passés là, sur Chartres.
Oui. Et on parlait de Pierre Cochereau tout à l'heure. Donc, c'est lui qui a été l'initiateur de ce festival. Effectivement, les plus grands organismes du monde entier viennent passer ce concours. Et j'ai envie de dire que pour être un organisme connu aujourd'hui, c'est incontournable.
Il faut avoir fait Chartres.
Il faut avoir fait le prix de Chartres.
Alors dépêchez-vous de le finir, parce que oui. Qu'est-ce qu'on va faire là ?
Donc en fait, c'est un instrument qui avait été reconstruit, on va dire, la partie instrumentale, donc ce qui se trouve à l'intérieur, dans les années 70. Et puis là, le but, c'est de tout refaire. Donc, on fait un instrument totalement neuf dans la carapace ancienne.
Donc, ça ne se verra pas, mais ça s'entendra.
Voilà, exactement.
D'accord. Et donc, l'orgue n'aura pas le même son ?
Ah, pas du tout. Pas du tout.
On parle d'un orgue assez moderne. Pour retrouver quel type de registration, quel type de
Alors,
son ?
Alors, en fait, ce sera un orgue un petit peu toute époque confondue, mais français. Donc c'était un petit peu ça le cahier des charges. Donc on pourra très bien jouer la musique classique française, la musique romantique française, la musique du 20e, l'improvisation et évidemment toutes les musiques en général. Mais l'harmonie, donc l'essence même du son, sera traitée un peu à la française.
Il y en a pour combien de temps encore ?
Ah bah, il y en a encore pour 2 ans là, de travail.
Ah, et vous êtes heureux de retrouver la Beauce, Chartres, la cathédrale, parce que c'est quelque chose là-bas.
La Beauce, je ne sais pas, mais Chartres, oui.
C'est-à-dire que 30 kilomètres à la ronde, on voit oui, Chartres, oui, on voit la cathédrale.
Oui.
C'est quelque chose de particulier. Chartres, le petit garçon que vous étiez à 14 ans, vous imaginiez un jour être là?
Ah non, ni Chartres, ni Notre-Dame, ni Saint-Mihiel, évidemment. Et c'est vrai que là, le rêve est devenu réalité, mais j'ai envie de dire, ce qui est drôle, c'est que, enfin pour moi, c'est que le rêve est devenu réalité sans m'en rendre compte. C'est venu petit à petit. Je parlais tout à l'heure du fait qu'être facteur d'orgue, c'était comme être président de la République, c'était ça pour moi. Hein. C'était donc en ce sens inaccessible. Et je me souviens, j'avais 25 ans, donc j'étais encore jeune facteur d'orgue. Et je me suis souvenu de cette pensée. Je me suis dit, bah, tiens, mais t'es facteur d'orgue. Ça y est, t'es président de la République.
C'est extraordinaire. Et vous avez travaillé, on peut le dire, c'est quand même quelques-uns des plus grandes orgues en France qui soient, Notre-Dame de Paris, Chartres, et vous avez cité Saint-Mihiel. Est-ce que vous avez fait Poitiers aussi?
Oui, Poitiers, bien sûr.
C'est énorme.
La vie, c'est un concours de circonstances, et j'estime avoir eu cette chance d'avoir pu travailler dans des entreprises de renom, qui ont travaillé sur des instruments de renom, et de côtoyer des musiciens de renom. Et ça, c'est une chance.
Olivier Chevron, après Chartres?
Après Chartres, il y a également Nancy, la cathédrale de Nancy.
Oui, vous êtes en train de travailler dessus.
Oui, on travaille dessus actuellement. Donc là, c'est une restauration. Pareil, un orgue très, très emblématique.
Qui est du 19e.
Alors, il y a une partie 18e et une partie 19e. Donc, les deux parties sont, on va dire, de très haute gamme. Donc, c'est un orgue extraordinaire. Et en fait, c'est le plus gros orgue de Cavaillé-École de province.
Cavaillé-École, ça fait plusieurs fois qu'on le cite.
Oui.
Il faut en reparler parce que si on parle de Cavaillé-École, c'est comme si on parlait de M. Renault ou de M. Dassault.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que Aristide, c'était son prénom, Aristide Cavaillé-École, était le plus grand facteur d'orgue de son temps,
tout pays
confondu au 19e. Deuxième moitié du 19e siècle. C'est vraiment, il faisait du haut de gamme, c'était le plus connu, c'est celui qui avait la plus grosse entreprise. C'était vraiment, c'est la référence encore aujourd'hui.
Et donc quand on intervient sur un Cavaillé-École, on serre un peu les fesses, comment ça se passe?
On fait très attention surtout, on est très respectueux, et comme c'est de la très belle facture, la très belle qualité, je ne veux pas dire que c'est facile, mais c'est plus facile que de travailler sur des orgues faits par des facteurs de moins pointus.
Pour terminer, un rêve?
Alors, pour répondre à cette question, je vais vous répondre par une réflexion d'un de mes maîtres, Jean-Loup Boisseau, qui est décédé il y a peu, et qui disait, donc quelqu'un de très connu dans la profession, qui disait que 3 vies ne suffiraient pas.
Olivier Chevron, il est facteur d'orgue, installé à Liourdres, à la frontière entre la Corrèze et le Lot. Vous pouvez retrouver cet entretien en podcast sur acx-19.fr.